Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bien, chers frères, c'est le Christ, roi de l'univers, la solennité de la royauté du Christ que nous fêtons aujourd'hui, et nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons que nous avancions dans le temps, et c'est ce que je vais vous proposer de méditer d'abord, la fin des temps, qui est le règne du Christ, et puis d'autre part, dans un deuxième temps, ma place à moi, c'est-à-dire notre place à nous tous, dans ce règne. D'abord, la fin des temps, c'est le règne du Christ. C'est ce qu'on appelle l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de toutes choses, la manifestation finale de Dieu. Et peut-être avez-vous été frappé comme moi de la paisibilité, de la manière dont ici l'Écriture nous mentionne cette fin des temps, non pas comme d'abord un cataclysme, même s'il y aura un cataclysme, enfin rassurez-vous, je ne sais pas si c'est rassurant, non, justement les cataclysmes ne sont pas trop rassurants, mais en tout cas ici l'image qui nous est donnée, c'est le règne de Dieu, paisible, tout comme il est dessiné d'ailleurs ici, au-dessus de la croisée du transept, le Christ qui vient et qui va régner. Voilà, cette fin des temps nous rappelle que ce temps est temporaire, c'est le premier enseignement du jour. Et c'est important de nous le rappeler, car parfois nous avons l'impression que tout va durer éternellement, que tout va toujours durer, que le monde se régénère, que peut-être, si je suis un peu fou, je peux penser que moi aussi, je suis un peu pour toujours ici. Il n'en est rien, et cette fausse idée que nous avons est corrigée justement par la liturgie qui nous fait contempler la fin des temps aujourd'hui. Vous le savez, le mérite de la liturgie, c'est de revenir toujours à la même chose. C'est-à-dire que si par aventure la fin des temps n'arrivait pas aujourd'hui, ni cette semaine, eh bien, que ferions-nous ? Nous recommencerions. Hein, c'est-à-dire, si nous sommes encore vivants la semaine prochaine, eh bien, nous allons de nouveau recommencer, nous allons attendre le Christ qui est venu dans le monde, c'est l'Avent, nous allons contempler sa naissance, nous allons écouter son enseignement, nous allons vivre sa vie, nous mettre à son écoute, le suivre au désert, ça va être le carême, nous attrister de sa mort, nous réjouir de sa résurrection, vivre le temps de l'Église, jusqu'à l'année prochaine, où de nouveau, nous méditerons sur la fin des temps. En un sens, la liturgie, qui est un cercle qui revient toujours au même, nous fait entrer justement dans l'éternité, nous fait sortir de cette fausse idée que j'ai, qui est un peu naturelle pour moi, parce que moi je suis né à un jour T, et que 40, 50, 60, 70 ans plus tard, 80 ans, 90 pour les plus vigoureux, dit déjà l'Écriture il y a 5000 ans, il ne faut pas croire que les centenaires n'existent que depuis peu de temps, eh bien, ma vie va finir. Moi, je suis inscrit dans un temps, dans une temporalité linéaire, et la liturgie, en revenant toujours à la même chose, me fait entrer dans le temps de Dieu qui, lui, est éternel, c'est-à-dire, il n'y a plus de temps. Voilà le premier mérite de cette solennité, nous faire contempler la fin des temps, cette fin que nous savons certaine, et que la science sans cesse essaye d'approcher. Ne vous laissez pas effrayer. Il ne se manque pas aujourd'hui, l'Apocalypse a de beaux jours devant elle, si j'ose dire, du moins la vision apocalyptique, car aujourd'hui, vous savez, ça sera... Alors, il y a 10 ans, c'était la fin du monde, c'était un virus qui allait tuer tout le monde. Bon, c'est plus à la mode, c'est moins à la mode. Aujourd'hui, la mode, c'est de dire que la Terre va s'épuiser, qu'on l'aura ruinée, qu'il n'y aura plus de nature, etc. Il y a un peu plus loin, il y a 30 ans, la mode, c'était l'extinction du soleil, etc. Bon. Tout ça, c'est pas mon problème, ça va se produire d'une manière ou d'une autre. Ce que moi je veux savoir, c'est ce qui advient, et c'est le Christ. Ce règne qui nous est décrit ici, dans l'évangile que nous venons d'entendre de saint Matthieu, ça sera un règne paisible et un règne sur tous. Vous l'avez vu, toutes les nations seront convoquées. C'est une question auquel personne n'échappera. Ce n'est pas une question catholico-catholique. Ce n'est pas pour savoir ce que deviendront les croyants de catholiques. C'est une question qui touchera tout le monde, les croyants de toutes les religions, les non-croyants, les choses, les objets, les animaux, les plantes, le cosmos tout entier. C'est-à-dire la récapitulation de tout dans le Christ. Ce que nous vivons Et ce que nous vivons à chaque liturgie, ce n'est pas simplement le souvenir du Seigneur que nous aimons, c'est vraiment la venue du Seigneur, la venue de son règne que vous allez appeler de tout votre cœur juste après la consécration. Quand je vous dirai qu'il est grand ce mystère de la foi, c'est-à-dire le sacrement que nous célébrons, et vous allez dire de tout cœur que vous attendez son règne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en quelque sorte, si j'ose dire. Nous, nous attendons le règne de Dieu, car nous voulons qu'il règne sur nous. C'est donc ma deuxième partie, comment faire pour que le Christ règne, puisque le Seigneur a pris le soin de nous donner un mode opératoire, si j'ose dire. Il va donc y avoir un jugement, et ce jugement va apprécier notre propre coopération au règne de Dieu. Oui, il va y avoir un jugement, il faut le répéter aux oreilles de vos amis qui en douteraient, il va y avoir un discernement entre le bien et le mal. Et ce discernement va en surprendre plus d'un. C'est ce que dit l'Évangile. Quand t'avons-nous fait du bien? Quand ne t'avons-nous pas fait du bien? Quelle surprise! Eh bien oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu qui est le bien lui-même va éprouver notre vie à l'aune du bien. Au soir de votre vie, vous serez examiné sur l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui n'auront pas vécu, qui ne vivent pas d'amour, n'existeront plus. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, c'est parce que nous avons une fausse conception de l'amour. L'amour, nous croyons que c'est ce que j'ai dans le cœur et qui fait que j'aime bien telle chose ou telle personne. Mais c'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est la réalité de la réalisation du bien dans ma vie. Le bien, c'est Dieu lui-même. Nullum bonum nisi adeo, dit saint Thomas d'Aquin. Pas de bien, sinon en Dieu. C'est-à-dire, tout bien qui se réalise, c'est Dieu qui se réalise. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, en suivant l'intime de ma conscience, quoi que je connaisse de Dieu, je peux découvrir l'intimité de Dieu qui est amour, c'est-à-dire qui est ce bien réalisé perpétuellement et échangé. Voilà donc la bonne nouvelle, la deuxième bonne nouvelle du jour. Ce temps va finir, et en plus, il va finir bien, c'est-à-dire qu'il va finir dans le bien. Il va finir par uniquement le bien. Alors bien sûr, je suis obligé, pour être honnête, de vous parler du mal. Le mal n'existe pas, hein, mes bien chers frères. Je ne suis pas naïf en disant ça. Je parle ontologiquement, je parle dans son essence. Le mal est une privation du bien. Le mal est une absence du bien. Le péché, c'est une non-vie. Ne laissez pas à croire autour de vous que commettre des péchés, c'est rigolo, c'est sympathique. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ça paraît rigolo. Ça paraît sympathique. Ça paraît attirant. C'est comme ça depuis le début du monde, hein. La pomme semblait, c'était pas une pomme d'ailleurs, c'est pas très grave, mais le fruit semblait adorable. La convoitise l'y a porté. Aussitôt goûté, aussitôt mort, si Dieu n'avait pas sauvé son peuple. Car le plan divin de salut, c'est que nous soyons sauvés. Dieu qui est bon nous a créés dans le bien et nous a créés pour le bien. Si le mot n'était pas si dur, si difficile, j'oserais dire que nous sommes prédestinés au bien. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Thomas d'Aquin. Lapsus, c'est saint Augustin, cité par saint Thomas. Mais saint Augustin nous dit, vous avez tous été faits pour voir Dieu. Vous avez tous été faits pour le contempler. Vous avez tous été faits pour la vérité et le bien. Mais attention, c'est là où le mot prédestination est piégé. Cette prédestination, cette destinée bonne, comme tout bon parent, j'ai jamais rencontré de père ou de mère de famille qui m'ait dit « Moi, j'ai prévu le bien pour numéro 1, numéro 2, numéro 3, le quatrième, bof. Hein, je veux que les autres réussissent, qu'ils soient beaux, intelligents, qu'ils soient heureux, etc. Et le dernier, je m'en fiche. » Eh bien non. Dieu, comme un bon père et une bonne mère, a prévu le bien pour tous ses enfants. Mais, tout comme un bon père et une bonne mère, vous le savez, un enfant n'est pas un animal, ni une plante. Un enfant est un enfant de Dieu qui exerce le bien par sa liberté intérieure. Et malheureusement, cette liberté peut mal se réaliser. Voilà donc le jugement qui est à notre porte. Et le jugement, il est déjà en train de se réaliser, en fait. Voilà pourquoi c'est paisible à la fin du monde. Parce que le bien que vous faites maintenant vous inscrit déjà en Dieu pour l'éternité. Vous n'avez qu'une vie. La vie éternelle est déjà commencée. Et ceux qui sont baptisés participent déjà du Christ qu'ils connaissent. Et ceux qui ne le sont pas le découvriront. Leur baptême sera leur mort. Ma mort sera pour moi la fin du monde, mon entrée dans l'éternité. Quelle joie de savoir que cette vie va continuer seulement dans le bien réalisé. Et voilà l'histoire ici racontée pour que nous comprenions tout le bien que nous aurons fait, tout le bien que nous aurons réalisé. Et le bien, ici dans l'Évangile, c'est clair, hein, c'est pas l'idée que j'ai du bien. C'est pas de me dire que les choses sont plutôt bonnes ou mauvaises. C'est si je le fais, si je l'ai rendu réel. N'aimons pas-t-on en parole mais en acte. Je vous renvoie à l'audience pontificale d'il y a 3 semaines où notre Saint-Père le Pape a rappelé les œuvres de miséricorde. Ici, vous les avez presque toutes, les corporelles, mais il y a aussi les spirituelles, bien entendu, que vous pouvez aller chercher chez Ézéchiel ou Isaïe, notamment chez Isaïe. Les œuvres de miséricorde, c'est enseigner, miséricorde spirituelle, enseigner celui qui ne sait pas, donner un bon conseil à qui en a besoin, corriger celui qui est dans l'erreur, pardonner les insultes, consoler celui qui est triste, supporter patiemment les défauts du prochain, prier pour les vivants et pour les morts. Voilà les œuvres de miséricorde spirituelle. Les corporelles, l'Évangile vient de vous les donner. Visiter et soigner les malades, donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à qui a soif, donner l'hospitalité aux pèlerins et à l'étranger, vêtir celui qui est dans le dénuement, racheter les captifs, ensevelir les morts. Voilà la réalisation concrète de notre vie. Ainsi, par ces réalisations, vous allez participer du Christ lui-même, prêtre, prophète et roi. Vous le savez, seul Dieu, seul le Christ est vraiment notre prêtre, notre roi, notre prophète. Et à chaque fois que vous réalisez un de ses actes, vous vous inscrivez en lui. Vous participez de sa dignité royale à chaque fois que vous allez régner sur le monde, à chaque fois que vous allez réordonner, comme le dit le Concile Vatican II à propos des laïcs tout particulièrement, dans Lumen Gentium, à chaque fois qu'il vous appartient tout spécialement de remettre le monde dans l'ordre, c'est-à-dire dans le bon ordre, dans la justice et le bien, vers Dieu. Alors seulement, nous allons pouvoir reconnaître le Christ, le connaître intérieurement, celui qui sera notre vie. Souvenez-vous que Saint Martin, en faisant la charité, en donnant la moitié de son manteau à celui qui avait froid, c'est le Christ qui lui est apparu. Le Christ a pris le chemin de l'humanité. Nous allons, si Dieu le veut, le reméditer bientôt. Mais ce chemin, c'est celui que moi-même je parcours à chaque fois que je réalise le bien. C'est le Christ qui apparaît à moi et je l'attends maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il.